Salut, c'est Yann avec vous sur Canal B pour l'émission Crème de la Crème qui sera grandement consacrée à Rockin' Ronnie, ce collectionneur de disques qui a été animateur radio, DJ et puis bien sûr patron de la boutique Rockin' Ronnie rue Saint-Melaine. Vend une partie de sa collection de disques. Le meilleur sera proposé le lundi 29 avril à 14h à l'hôtel des ventes. Ensuite, il y aura une vente en ligne. On parlera pas mal de rock'n'roll donc dans Crème de la Crème aujourd'hui. Et puis, on retrouvera les deux disques d'or de la semaine, c'est-à-dire ceux de Loro et puis de Holiday Ghost. Et puis, on ira une dernière fois en 2011 grâce à la machine à remonter le son. On retrouvera les morceaux de choix proposés par Ronan en fin d'émission tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est Delphine qui vous parlera d'un morceau de Faith No More. On commence en Tropicalia Bossa Nova, tout à fait légère et douce, avec le Brésilien Loro.
Estrangeiro, eu fico.
Les Anglais, Holiday Ghost, vous les retrouverez pendant le festival Pipe à la Pop début juin à Rennes. Et on les entendait à l'instant avec un très bon titre, comme tous les titres d'ailleurs de l'album Coat of Arms, leur cinquième album, double disque d'or cette semaine, avec aussi celui de Loro qu'on écoutait tout à l'heure. On part en 2011 avec la machine à remonter le son. Les Black Lips d'Atlanta en Géorgie en grande forme sur leur album Arabia Mountain en 2011. On les voyait vraiment maître de leur art flower punk avec ce morceau qu'ils auraient pu shipper dans une liste d'inédits des Ramones. C'était New Direction. On retrouve dans quelques secondes Rockin' Ronnie pour une longue discussion autour de quelques belles pièces à retrouver à l'hôtel de vente de Rennes dès lundi 29 avril. Content de recevoir une figure, carrément, on l'appelle comme ça, oui, un pionnier du rock'n'roll à Rennes, on peut le dire comme ça aussi. Il n'était pas beaucoup, il n'était que 7 apparemment au tout début, les rockers à Rennes, quand ça a commencé peut-être début des années 60, fin 50 évidemment. C'est un certain René Lucas alias Rockin' Ronnie, on le connaît plus sous cet alias-là, évidemment, qui a eu plusieurs vies, j'ai l'impression, dans une seule, puisque tu as été disquaire, c'est comme ça qu'on appelait les DJ au début. Et puis tu as été animateur radio, et puis tu as eu une boutique de disques, et puis tu as même pris sous ton aile pendant peut-être quelques heures, je ne sais pas, les Marquis de Sade, je ne sais pas comment ça s'est passé.
Oui, là, c'est suite, j'avais organisé leur deuxième concert au People, et du coup, je les avais emmenés au studio Le Calouette près de l'usine Citroën. Mais comme à cette époque-là, il y avait un couillon qui était en train d'enregistrer une merde genre ambiance tropicale, on en avait marre d'attendre, on s'est cassé, et puis voilà, c'est... Ma collaboration, ça s'est arrêté là avec Marquis de Sade. Bien qu'on est resté amis et qu'on s'est croisés sans cesse, puisque Marc Seberg faisait tous ses concerts au Paradise avant de partir en tournée, hein, tous ses premiers concerts.
Le prétexte pour recevoir Ronnie aujourd'hui, eh bien, c'est cette vente aux enchères d'une partie, hein, d'une collection gigantesque de 20 000 disques.
Qui 300 000. Peut-être...
300 000, alors voilà.
Il y en aura 20 000 qui seront vendus...
Bon, en tout cas, cette vente-là, elle aura lieu à partir du 29 avril. Le 29 avril à la salle des ventes, puis ensuite, ça sera en ligne sur interenchères.com. Les enchères et la vente en ligne, tu connais ça depuis longtemps, en fait.
Ah bah oui, parce que moi, j'ai travaillé au tout départ chez Auckland, chez eBay, et je suis toujours sur CD en LP. Donc, j'ai travaillé comme ça après la fermeture de mon magasin.
Mais avant de vendre des disques, il faut bien en découvrir, en acheter, et puis tomber complètement en arrière. Alors, j'ai lu une histoire absolument incroyable de soucoupe volante avec ton grand-père. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Alors, c'est toute l'origine qui m'a mis dedans. À l'époque, je suis gamin, donc je suis chez mon grand-père. Mon grand-père est sorcier, rebouteux, très connu dans la région, c'est près de Dinan. Et dans la cour, je vois des bagnoles américaines, et puisqu'il y a des bases américaines en France et tout, donc pour que les mecs viennent de Châteauroux jusqu'à Dinan, c'est que je pense qu'il avait certains pouvoirs. Et on était là, et puis comme distraction, on n'avait pas grand-chose. Il y avait un gros poste TSF, on écoute ce gros poste TSF. Et puis à un moment, il y a une musique, mais ça me glace. J'ai les poils. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça m'interpelle vraiment. Il y a un énorme orage, une boule de feu qui traverse toute la pièce, avec une pièce qui ressort par la cheminée. Et là, il y a une soucoupe volante qui atterrit sur le placis juste devant. Et après ma démarche, je voulais trouver ce disque qui faisait venir les soucoupes volantes. C'est aussi con que ça. Et c'est pour ça que je suis un peu taré. Oops, scooby-dooby-lina, go-gal-go, bop-a-lina, bop-a-lina. She my gal. Oh, bop-a-lina, bop-a-lina. Yeah, she my gal. She my gal and a lover so. Oops, scooby-dooby-lina, go-gal-go. Well, the school bells are ringing, everybody running out. Going through the shack, gonna shake it all about. Bop-a-lina looking like a rose from the wild. Man, I dig that juvenile. When she get it going, she's a real cool chick. She do the bebop like a pogo stick. Bop-a-lina, bop-a-lina. Yeah, she my gal. Oh, bop-a-lina, bop-a-lina. Yeah, she my gal. She my gal and I love her so. Oops, scooby-dooby-lina, go gal, go. Shoes on my hound dog feet. Me and Bop-a-lina gonna walk the beat to the old jukebox in the T-town shack. When we get her going, gonna ball a jack. Bop-a-lina got 2 feet that tall. Look at her go on a camel walk. Bop-a-lina, Bop-a-lina, she my gal. Oh, Bop-a-lina, Bop-a-lina, yeah, she my gal. She my gal and I love her so. Scooby-dooby-lina, go gal, go, yeah.
Là, on a entendu les origines du pseudo de Ronnie. C'était pas Ronnie Bird, le minet du Golf Draw, qui était quand même un des plus classes de cette époque, ah oui, 65-66. Oui. Et puis, c'était pas non plus Ronnie Dawson, la petite bombe blonde qui faisait les fameux Rockin' Bones. Non, c'était Ronnie Self qu'on entendait à l'instant. Alors, est-ce que c'était lui le morceau que t'as entendu à la radio?
Absolument
TSF?
Absolument pas. Le morceau que j'ai entendu à l'époque, puisque ça devait être 57 ou 58, c'était des instrumentaux. Et en France, il y avait beaucoup de groupes de jazz qui jouaient des instrumentaux, mais c'était la première fois que j'entendais du rock'n'roll, c'est-à-dire ce rythme-là. Et je pense que peut-être que je l'ai dans ma collection, et je pense que maintenant, ça paraît inintéressant. Et j'ai écouté tellement de trucs, mais quand j'ai pris ça dans la tête, c'était...
cette collection de disques, j'en ai pu en voir qu'une partie, celle qu'il y a dans le catalogue de cette vente. Ça va d'un EP de Creation au single de Olivenstein. Il y a des 25 cm de Serge Gainsbourg, il y a les Marvelettes. On passe aussi par le EP de Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Il y a du Pink Floyd, les Ramones, sans oublier les Epstars, hein, de futur ABBA se glissent dans ce groupe suédois, et ou bien le dieu Gene Vincent. Alors bien sûr, tu es associé à un concert de Gene Vincent en 1967 à la Salle de la Cité. Avant d'en parler un petit peu, parce que il y a eu d'autres moments assez croquignolesques, j'ai l'impression, notamment cette histoire de pâté de rocker en écoutant des 45 tours sur un jukebox. C'est quoi cette histoire?
Eh ben, à l'époque, on avait très peu d'endroits. On était très peu. On était sept.
Sept, tu dis ça, oui.
Une bande. Et tous, on appartenait à un fan club différent. À l'époque, il y avait le fan club de Jensen, le club de Cochrane. Et tous, on avait à peu près les mêmes surnoms par rapport aux fanzines qui nous intéressaient. Il y avait un seul endroit où il y avait un jukebox et dedans, il y avait du Gene Vincent. On n'était pas très fortunés, donc le dimanche après-midi, bon, on allait, on prenait une terrine de pâté et on bloquait le jukebox avec les 2-3 Gene Vincent qu'il y avait.
Donc il a bien fallu un moment quand même que tu atteignes ces objets de culte pour toi, qui allait devenir un culte, pratiquement le rock'n'roll. Ces 45 tours, ces 78 tours d'Elvis Presley que tu vas chercher très loin. C'est quoi ton premier disque d'ailleurs que tu as acheté?
Alors, le premier disque que j'ai acheté, c'est le London Rouge Eddie Cochrane, qui vaut maintenant 500-600 euros quand même. Pour un EP, c'est pas mal. Mais c'est suite parce que les disques qu'on m'offrait... quand je prédisais l'avenir aux gens de la rue de l'Orient. Et c'est derrière les pochettes de disques, des chaussettes noires et tout, ou des pirates ou des vautours, on voyait que originellement ça venait de Gene Vincent, de Cochrane et tout. Donc j'ai cherché ces disques-là. Mais ils étaient vraiment très difficiles à trouver. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, début 60, t'allais chez Racine, t'avais... 3 Gene Vincent et t'avais 150 Sheila, quoi. Ou Claude François, ou Dalida.
Donc il a fallu se déplacer pour aller les trouver, alors.
Ah, franchement, c'était pas évident. Hein. Fallait commander, en général.
Et donc toi, tu commences à collectionner déjà, à ce moment-là, ou c'est pas l'idée de collectionner?
C'est même pas dans l'idée de collectionner, c'est de pouvoir entendre ces trucs-là quand je veux, parce qu'à l'époque, la seule émission où on diffuse du rock'n'roll, c'est la séquence rock de Salut les copains. C'est-à-dire que dans Salut les copains, il y a une faible séquence qui dure 3 titres. Donc on va te faire découvrir Chuck Berry, Bo Diddley, Vince Taylor, et c'est tout, c'est 3 disques. Donc on attend avec impatience, mais après, pour trouver ces disques-là, c'est autre chose.
Tu vas aller jusqu'en Suisse récupérer des 78 tours d'Elvis Presley sur Sun.
Alors, c'est parce qu'à l'époque, il y a un des seuls mecs qui fait de l'import, je crois que c'est, si mes souvenirs sont exacts, c'est Jean-Pierre Louvain à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Et lui a fait quelques imports de rock'n'roll, ce qui est extrêmement rare à l'époque. Quand je suis chez lui, il y a des 78 tours Sun. Bah, évidemment, on a entendu parler du label Sun, mais pour nous, c'est vraiment le soleil, quoi. Et il vend donc ces 78 tours. Et ces 78 tours-là, on prend pour un débile, parce que j'achète ça, le prix de 2 EP de l'époque, c'est-à-dire aujourd'hui, ça ferait à peine 30 euros. Seulement, je les ai quand même vendus 30 000 euros, les 5, il y a quand même une dizaine d'années.
Oui, parce que c'était un format qui allait disparaître, les 78 euros.
C'est tellement fabuleux. Mm-hmm. Je crois que peu de gens peuvent parler d'Elvis s'ils n'ont pas entendu un 78 tours d'Elvis. Parce que malgré tout ce qu'on a pu faire et tout, et les plus... quand tu mets un 78 tours, pas obligatoirement à ça, n'importe quel 78 tours de rock'n'roll, c'est absolument fabuleux. Tu entends, tu crois que les gens, les musiciens sont dans... Et tu peux écouter ça sur un Tepaz. Hein, et le mec qui arrive avec sa chaîne à 50 000 euros, il a l'air con à côté. Hein.
Dans cette vie toute dédiée depuis pas mal de temps maintenant au rock'n'roll, tu as aussi été l'un des rédacteurs d'un des premiers fanzines rock en France autour de Little Richard.
Je travaillais pour le Little Richard Fan Club de Michel Tonnet, je crois. Et donc j'écrivais et c'est moi qui a fait, ah non, parce que déjà ça s'était fusionné avec Only Rock et c'est moi qui avais écrit le compte-rendu du concert de Gene Vincent à la Cité.
Ce concert-là, qui est peut-être dans des mémoires de rockers qui sont encore vivants aujourd'hui, sans doute.
Mais...
il y en a peut-être plus beaucoup, mais Gene Vincent en 1967 à la Salle de la Cité, on voit ça comme un grand fait d'armes dans la musique arène. Et c'est quoi alors ?
C'est-à-dire que, tu vois, je suis fan des Cramps aussi, hein. Mais si tu veux, Gene Vincent, les Cramps à côté, c'est les Enfants de Marie. Donc, c'est juste pour situer. Quand tu allais à un concert de Gene Vincent, c'est un peu comme si tu allais à la messe. Et les gens, ils ont un peu perdu ce côté un peu diabolique, un peu messe, un peu. C'était vraiment quelque chose qui n'existe, qui existe encore. Les Cramps arrivaient à reproduire un peu ça.
On va écouter de la musique encore une fois, tiens, et puis on continue à en parler avec Rockin' Ronnie, toujours, pour évoquer notamment cette vente aux enchères de belles pièces de cette collection de disques en format vinyle. Il y a aussi du 78 tours, il y a du EP, il y a des belles pochettes en couleur, et puis il y a quelques raretés ultimes, notamment ce EP 4 titres des Ben Dis Donc.
Devant une fille née, il me faut des lunettes pour voir à quelques mètres. Je ne distingue rien au petit matin. Tout le monde me dit que c'est à cause de mes cheveux. J'avais le front à l'air, les oreilles dans le vent, l'air très intelligent. Faut dire que j'ai un front qui ressemble à un ballon, les oreilles en avant, j'ai l'air d'un éléphant.
Je me sens bien mieux. c'est presque du punk avant l'heure, pas loin, pas loin. À l'instant, les Bains dis donc, ça c'est un des disques dont vous pourrez être peut-être l'acquéreur après cette vente aux enchères. Attention, il y aura certainement quelques collectionneurs japonais, californiens ou londoniens qui sont sur le coup, donc ils seront peut-être pas à Rennes, alors peut-être aurez une chance pour cette partie de la vente des disques, une partie des disques de Rockin' Ronnie. Alors, ce morceau, 4 cheveux dans le vent, nous on le connaît parce que ça a été réédité sur une compilation Wiz, mais avant ça, c'était un 45 tours, et c'était aussi le groupe de futurs membres de Il était une fois, quelques-uns, ouais, et puis aussi les Papivores, mais ça c'est un peu moins connu, mais bon. Ce disque-là, par exemple, est-ce que c'est un disque que toi tu as passé en étant disquaire, l'ancien nom des disques du hockey?
Honnêtement, non, pas celui-là. Non, parce que j'avais tenté, mais celui-là ne marchait pas. Le garage, à l'époque, ça, on ne peut pas dire que c'était... Le garage, il a été découvert, je crois, plus dans les années 80 que... ouais, les gens n'étaient pas fans. J'ai essayé ce truc-là, parce que je l'adorais, mais...
Parce que toi, tu vas être DJ pour une radio, ou quand exactement?
Pour les radios, j'ai travaillé à RFM... et là, je racontais toute l'histoire du rock. J'interviewais des groupes, dont les Dogs.
Mais tu avais passé de la musique avant?
J'étais DJ avant. J'étais au People dans la, dès 1974.
En 1974, qu'est-ce qu'on écoute typiquement?
Les Bobia écoutent la merde qui passe dans les hit-parades. Donc, c'est des trucs infâmes dont je préfère même pas me souvenir.
Et toi, qu'est-ce que toi tu leur dis?
Moi, je programme déjà du Doors, du Stooges, et le pire, c'est que j'arrive à faire danser les gens. Mais parfois, je mets de la merde comme les autres, hein, faut pas rêver.
Alors ça, c'était une boîte pilote, hein, lancée par RTL, en tout cas fournie par RTL. Comment ça se passait?
C'est devenu club, le People est devenu club pilote RTL, ce qui me permettait de recevoir des tonnes de promos. Donc, ce qui était super sympa quand tu collectionnes. Donc, en plus, on passait à la radio, ça faisait une pub terrible sur RTL tous les samedis soirs. Donc, comme club pilote, quoi. C'est quand même plus agréable de faire danser des gens sur la musique puisque tu partages le truc que d'être là comme un préposé au disque à avoir des... je sais pas moi, la charcuterie tournoyée, tu t'en fous de ça, c'est pas ton truc, toi t'es là pour que les gens vivent, qu'ils soient heureux. C'est comme ça que je construis le métier de DJ.
Les boîtes de nuit sont pas toutes fans de ce que tu proposes aux clients?
C'est sûr.
Elles trouvent ça parfois un petit peu trop agressif, trop violent, c'est pas pour tout le monde?
C'est certain que j'ai eu des ennuis, puisque j'ai eu un procès pour punkitude, puisque quand j'ai carrément... Avant, je passais, j'attendais minuit, une heure, d'ailleurs je faisais une programmation qu'on pourrait dire normale, ce qui se passait, ce qu'on devait passer dans les boîtes à l'époque, et à partir d'une heure, hop, je partais dans mes délires. Et à un moment, j'ai trop accentué le truc sur le punk, puisque il y avait beaucoup de gens sur la côte qui venaient uniquement pour le punk. Mais quand les autres sont revenus de vacances, c'était en pleine période disco avec leur pelle à tarte, leur jean blanc, et qui dansaient sur She's Crazy Like a Full Body. Tu vois, la bonne musique betteravière, là. Et là, ils ont dit, quoi, c'est quoi? Il y a une boîte de fachos, parce qu'à l'époque, les gens savent peu ça, mais les premiers punks, c'est tout simplement des mecs qui mettaient une cravate, une veste, et qui se coupaient les cheveux. Parce qu'à l'époque, c'est la pleine époque, baba, tu sais, grands cheveux, et on écoute toute la dope, Genesis, Yes et compagnie.
Ouais, toi tu passais pas trop de rock progressif, pas du tout.
Ah non, pas du tout, oh non.
Alors on parle de punk là déjà, et puis finalement quand j'imaginais que les Bains dis donc c'était du pré-punk, là on a l'étage au-dessus avec Iggy Pop et sa bande, on va écouter les Stooges.
Oh,
on sent la même énergie que, que tout à l'heure, depuis le début de cette discussion avec Rockin' Ronnie, une sélection musicale de ton cru. Ronnie Self tout à l'heure, les bandits donc après. À l'instant, vous aurez reconnu le chien fou Iggy Pop avec sa bande de frères Ashton, à l'instant les Stooges. Donc, est-ce que ça vaut de se faire virer d'une boîte alors, de passer ça par exemple ou pas
ce qui m'a fait virer, c'est plus l'attitude des gens. C'est-à-dire que dès 76, il y avait déjà les premiers 45 des Ramones, hein, Blitzkrieg Bop, il y avait les Vibrators, il y avait déjà pas mal de trucs dès 76, plus avant le pré-punk avec Eddie and the Trods et compagnie. À propos d'I Feel Alright, il y a un groupe absolument génial de Vendée, ça s'appelle les Dynamite Shakers. Sur scène, souvent, en fin de session, ils font I Feel Alright et c'est énorme. Ils en font une version comme les Damned. Absolument, c'est époustouflant. Ce groupe, si les mecs qui veulent commencer la collection, investissez sur les Dynamite Shakers, essayez de trouver les premiers trucs qui sont... Il y a un album qui vient de sortir, mais essayez de trouver les 45 et le 25 cm. Ça, c'est du collecteur en puissance.
On les écoutera tout à l'heure, les Dynamite Shakers, pour terminer la discussion. Mais on revient donc cette fin des années 70, début 80. Les temps changent. Rennes est capitale mondiale en France du rock. Les Marquis de Sade attirent Gérard Bardavid de Best. Toute la presse parisienne se penche un petit peu sur le chevet de cette vie qui va bien. Philippe Pascal est en grande forme. Enfin, pas vraiment, mais bon, c'était son état. Vous le retrouviez, vous qui êtes assez grand pour ça, peut-être du côté du Club Paradise, le Paradise.
Après,
où tu étais DJ, toi.
Ils passent leur vie, toute leur vie là-bas.
Alors, comment ça se passait, une soirée au Paradise typique? Toi, à partir du moment où tu arrives, qu'est-ce qui s'y passe?
Moi, j'arrive déjà défoncé, je me défonce un peu plus, et puis je prends la sono. Rock'n'roll à fond, quoi.
Le rock'n'roll à fond, avec parfois des petites incartades à ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'un DJ passe dans une boîte de nuit.
Ah oui, parce que j'aime bien aussi la provoque. Alors, il m'arrivait de passer des conneries, genre Chantal Goya, mais c'était juste par provoque ou pour emmerder tout le monde ou pour les réveiller.
Ou un peu de musique classique après un titre de Joy Division.
Pourquoi pas? Mais il m'est arrivé de faire ce genre de trucs, mais ou Edith Piaf. D'ailleurs, quand j'avais fait, je me souviens de ça, de Mitterrand, qui était venu me dire « bravo le... » il était avec Jacques Lang et compagnie, qui venait au Paradise. Il était venu me dire, oh, c'est bien, j'avais passé la foule, emporté par la foule, d'Edith Piaf, et bien.
Des boîtes de nuit à Rennes, il y en a qui marchent autant que le Paradise à l'époque, ou c'est celle qui marche le mieux? Il n'y en a peut-être pas beaucoup d'autres, d'ailleurs.
Le Paradise, c'est une petite boîte, mais contrairement aux autres, elle est pleine du lundi au samedi, et puis par des gens qui sont tous un peu allumés, quoi. Donc, il y a quand même une ambiance qu'on ne retrouve plus. Pareil, au début, c'est génial. Il y a 2-3 années, vraiment super, parce qu'il n'y a que des musicaux, que des artistes. D'ailleurs, la plupart deviendront célèbres. Hein. C'est inimaginable le nombre de gens qui sont passés par là. Mais... il y a un tournant, ça devient une boîte à la mode. Il y a un moment, ça va bien parce qu'il y a des gens friqués qui viennent regarder les gens s'amuser, mais après, il n'y a plus que des poseurs et qui, ça casse tout le truc.
Dans un article de Best que j'ai pu retrouver, Gérard Bardavid lui parle de cleanagers. C'est pas des teenagers, c'est des teenagers clean. Propre, quoi.
Oui.
Mais bon, c'est un mélange de punk, de jeux de gens modernes, c'est un peu tout ça, quoi.
Voilà, il y a fricote. Suivant l'époque, oui.
Et puis des gamins et des gamines friquées aussi. C'est une boîte de nuit, quoi. Ça n'a peut-être pas beaucoup changé, finalement.
Si,
quand même.
Non, j'ai fait beaucoup de boîtes de nuit et tout. Franchement, elle avait quand même quelque chose que les autres n'ont pas, quoi. C'était quand même un regroupement de gens. Qui était pris dans un trip, ce qu'on ne trouve pas dans les boîtes où les gens y vont pour lever de la grosse, ou non, qui ne sont pas dans le même truc.
On va arriver bientôt à la boutique de disques de la rue Saint-Melaine, et puis quand même parler d'organisation de concerts, on organise quelques-uns, à la fin des années 70, début 80.
Ah bah oui, j'en ai quand même fait quelques-uns.
Et de gens, pas que des groupes rennais, forcément.
Ben bien sûr, j'ai fait au Pipo, j'ai fait Little Bob, que j'ai été revoir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie il n'y a pas longtemps. Ils s'en souvenaient même plus. Mais ben, pourtant, je l'ai fait passer. J'ai fait passer Vince Taylor.
Alors, Vince Taylor, qui était toujours avec sa belle tenue en cuir, en noir, forcément.
Non, là, il était très perché. C'était ce qui m'avait fait énormément peur. Mais il a fait un concert fabuleux parce qu'on lui a peut-être donné les produits qu'il fallait.
La musique, c'est du matin au soir, évidemment, la nuit aussi. Et puis, tu te rends compte à un moment que bah, pourquoi pas vendre aux gens qui viennent danser sur la musique le soir et la nuit les mêmes disques, mais dans la boutique. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est vraiment passé, la création du magasin de la rue Saint-Blaise?
La création du magasin, elle est venue. Je me suis dit, oh, il n'y a personne qui fait vraiment, vraiment, vraiment rock. Moi, c'est pour ça que ça s'appelait Rockin' Ronnie. Moi, je suis parti carrément dans un trip rock'n'roll. Heureusement que j'ai rectifié assez vite. Parce qu'au début, moi, je commandais les crampes chez Neurose. Moi, je commandais ça par 100. Hein. Il m'en reste encore des cartons de 25. Moi, je croyais que ça se vendait. Et puis à Rennes, il y avait quand même Rennes Musique qui était super bon, hein, qui avait un choix génial. Et c'était un putain de bon disquaire. Et du coup, je me suis orienté plus sur l'occasion et je me rendais compte que c'était plus facile de vendre un Mylène Farmer à 300 €, à l'époque c'était en francs, donc je ne sais plus combien ça fait, que de vendre un Gene Vincent ultra rare ou un Elvis super rare. Ça n'intéressait personne.
Je peux avouer une expérience personnelle. Moi, je suis rentré une fois dans ta boutique de la rue Saint-Blaise, en 90 ou 91 peut-être. J'avais remarqué un album des Seeds que j'avais pas vu ailleurs et je t'ai demandé combien il coûtait. Tu m'as dit que c'était trop cher pour moi.
Ah oui, c'est juste mon côté commerçant.
Et en fait, c'est possible que c'était trop cher pour moi déjà. tu vendais beaucoup de pièces rares et chères ou pas tant que ça finalement. Et
c'était... Bah aujourd'hui, les gens il devrait dire, bah putain, si seulement je les avais achetés à ce prix-là, aujourd'hui, elles valent un peu plus cher.
Parce qu'il y avait du rock'n'roll, d'accord, mais dans plusieurs déclinaisons, du rythme et le blues original, jusqu'à de la soul, en passant par du punk, tout ça était présent.
Ouais, à l'époque, ça c'était. J'avais beaucoup étendu le truc, heureusement.
Et Off the Bone des Cramps, alors il t'en reste quelques-uns, tu disais.
Non, pas malheureusement, Off the Bone, non. Non, c'est tous les tirages Neurose qui sont sortis, mais c'est les originaux, Death with Elvis, avec. C'est quand même des originaux avec les lettres en relief qui valent 50-60 € maintenant.
Quand on voit quelques photos de Ronnie de ces dernières années, il y a souvent une publicité, une PLV, comme on disait, une publicité sur les lieux de vente des Cramps. Ça, t'es un de tes groupes préférés, les Cramps.
Ah bah c'est évident. Ils avaient tout compris du rock'n'roll. Ils avaient l'attitude. Et puis surtout, ils avaient compris ce qui était sacré. Qu'il n'y avait pas besoin de se faire chier à faire son gros technicien jazzeux musicaux, qu'il suffisait d'aligner correctement trois accords et d'y croire, quoi.
Et bien sûr, Off the Bone, en 1983, il y avait ce fameux Human Fly par les Cramps.
Ça, c'est un chef-d'œuvre.
Six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push that to the side. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Right. I'm a human fly, I spill it a little while, I
sleepless. Cause I ain't as tough as you, cause I'm an unzipped fly. And I don't know why, and I don't know why, but I say, fly tonight, and I say, fly, get right, and I say, but I don't know why. Don't know why.
Ah, cette voix de maniaque comme ça, Alex Intérieur, qui vient nous susurrer à l'oreille qu'il est une mouche humaine, fait peur un peu quand même.
Et en plus, c'est un instrumental, hein. C'est un truc des Ramblers sur lequel il a collé des paroles.
Ah bah ça, ils avaient un peu leur chic pour ça, d'aller prendre un vieux morceau de garage, de mettre des paroles salaces dessus et puis de le ralentir, et ça faisait un rythme blues nouveau. Bravo.
Et le maxi avec la tête de mort de Human Fly, il est aux enchères, mais un très petit prix.
Je vous ai donné quelques-unes des pièces que vous retrouverez dans cette vente qui a lieu le 29 avril à l'Hôtel des Ventes à Rennes, Place des Lys. Eh bien, il y en a beaucoup d'autres. J'ai pu voir le catalogue, c'est vrai que c'est assez splendide. Ça va faire baver sans doute plus d'un fan de bel objet en vinyle, de ces petits 25 cm, des 7 pouces aussi. Et puis des petits formats qui n'existent pas vraiment beaucoup, des Aretha Franklin en mini. C'est quoi ces formats de disques les plus bizarres que tu aies, toi ?
Alors, le truc de Jimi Hendrix, c'est à l'époque, c'est Barclay qui avait voulu lancer ce qu'on appelait le 10 de poche. Dedans, il y avait justement Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Eric Burdon. Je crois qu'il y en avait 5 ou 6, pas plus. Et ils s'étaient dit, on va faire le format d'une poche pour mettre ça dans sa poche quand tu allais en boom. Mais non seulement ils réduisaient, ils faisaient un best-of, mais tous les morceaux étaient écourtés, ils avaient 2 minutes, ça n'avait aucun intérêt, ça n'a pas marché du tout.
Mais aujourd'hui, forcément, comme il n'y en a pas eu beaucoup de pressés, c'est rare, évidemment. Donc, Rockin' Ronnie, la boutique, ça va commencer en 1985. Toi, tu avais eu une idée, peut-être quelques temps avant, de proposer à des musiciens rennais de poser avec leur album préféré. Alors, c'est à l'époque de la boutique, ça, ou c'est juste avant ?
C'est avant, c'est au Paradise, parce qu'à l'époque, je devais sortir un journal, et ça s'est fait par la suite, puisque c'est Gaucher qui a fait ça et qui a sorti Tam Tam, un magazine luxueux dans le genre d'Andy Warhol, là, super beau. Il a sorti 3-4 numéros splendides. Moi, c'est avant, j'ai dit, tiens, on va faire ça. Et j'avais demandé aux artistes qui venaient au Paradise, qui n'étaient pas des artistes à l'époque, hein, qui étaient inconnus. Dao, quand il a fait la photo, là, c'est... Il n'avait qu'une cassette en circulation, hein, confidentielle, et je leur avais demandé de poser avec leur disque préféré.
Et donc Étienne Dao, lui, pose avec un
avec disque. Ricky Nelson.
Et il y a eu d'autres artistes ou pas ?
Oui, mais il faut que je les retrouve.
Donc on peut pas...
Il y a d'autres. Beaucoup de respect quand même pour Étienne Dao, parce que c'était un excellent marchand de disques. Dans la petite rue qui monte là, de la place Rallier du Bâti, il a eu une boutique de disques aussi. Après, il a été disquaire en dessous de la Villa d'Esse. Et c'était un très bon disquaire. Bon, c'était un autre trip, hein. Il y a une chose que, oh, ça, peu de gens le savent, le mec qui avait remplacé, si ça se trouve, Dao, il ne sait même pas ça, le mec qui avait remplacé dans les Chats Sauvages, c'est Mick Shannon, il a fait un 45 tours EP, mais qui est vraiment rare, et on croit que c'est Dao. À chaque fois que j'ai fait écouter ce truc-là, c'est Dao. Tout le monde dit c'est Dao.
Et toi, si tu avais dû faire le même exercice, tu aurais hésité entre la notée d'Adamo et Gene Vincent, ou tu aurais choisi directement Gene Vincent ?
Je suis tellement...
Parce que tu es fan de cette chanson d'Adamo.
Absolument. Elle est fabuleuse, cette chanson. Et tu l'entends n'importe où et tout, dans toutes les langues. Tu es dans n'importe quel pays du monde. Et en plus, les paroles sont belles. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, c'est une chanson qui me touche. Moi, je suis fan d'Arnaud, hein. De Gainsbourg aussi.
On va arriver vers la fin de cette discussion, mais si vous voulez encore entendre Ronnie sur Canal B, ça va être possible, puisque lundi, tu seras l'invité de Bruno dans Punkorama. Vous parlerez peut-être plus des Holsteins, des Guilty Razors et puis des Ramones, forcément.
Rassure.
Son groupe préféré, mais on va nous aller vers la fin et la fin en musique évidemment avec les Dynamite Shakers. Mais avant ça, je voyais récemment une déclaration de Seb Blanchet, patron de la boutique Rockin' Bones, rue de la Motte Fablé à Rennes, aussi patron du label Beast Records et animateur de l'émission Blues Sheet sur Canal B et programmateur du Festival de Binic, où il a plusieurs casquettes. Il voyait un peu en toi comme un mentor. Comment t'avais pris ce compliment-là?
C'est vachement flatteur. Et surtout que Seb, c'est un mec que j'estime beaucoup. Et c'est super de voir des mecs comme ça qui continuent avec le... Lui, il a compris le truc, quoi. Il est à fond dedans. C'est ça qui est bien.
Il venait à la boutique.
Je le voyais. Bah oui, tout gamin, il passait avec Franck et tout. Franck, c'est pareil. Ils sont tous restés vraiment rock'n'roll. C'est ça qui est génial.
Toi, le fait de passer
c'est ça. Mais moi, je suis très content.
Se passer ce flambeau-là avec des boutiques qui existent.
Parfait.
C'est pas mal. Mais passer la parole auprès des plus jeunes, peut-être avec des émissions de radio. Ça pas tenté de refaire ça ou de faire des podcasts aujourd'hui? Ça se fait.
J'y ai pu penser à un moment, je me suis un peu perdu. Bon, bah, c'est à cause de... Bon, j'étais joueur, j'ai un peu flambé, je suis devenu complètement... Mais c'est sûr que j'aurais dû davantage insister à faire des... Mais bon, je pense que c'est réussi, on a compris la suite. T'as Seb, et regarde les Dynamite Shakers, hop, ils rock'n'roll.
On y arrive donc à la fin, on retombe sur nos pieds de cette discussion avec donc Rockin' Ronnie. Je vous rappelle que si vous avez quelques sous de côté, mais un peu quand même, et qu'elle vous fait baver, cette petite édition des Creations sur EP Vogue, eh bien, elle sera à vendre, et il y en aura beaucoup d'autres. 20 000 disques en tout dans cette première partie de la vente?
Non, la première, il y a 180 disques, mais après c'est des lots, c'est-à-dire après ça sera des trucs avec des mises à prix ridicules, ça sera vendu par 20, donc c'est le départ de prix, ça sera même pas le prix de braderie qu'on trouve sur les braderies, et c'est vérifié et c'est en état, donc c'est quand même classe.
La vente physique best-of numéro 1 a lieu le 29 avril à 14h à l'hôtel des ventes de Rennes, place des Lys, et puis ensuite vente online du 30 avril au 11 mai sur interenchere.com. On finit avec les Dynamite Shakers, alors pas avec leur reprise du I Feel Alright des Stooges.
Ah, malheureusement elle n'existe pas
parce qu'ils la font en live, mais avec ce morceau, un des tout derniers singles qu'ils ont pu sortir, bien foutu, avec un riff bien accrocheur, ce morceau, The Bell Behind the Door. Merci beaucoup, Ronnie.
Okay.
Et puis longue vie, donc.
Oui, ça va plus être très long.
À bientôt sur Canal B, donc dans l'émission Punkorama, lundi soir avec Bruno. C'était les Dynamite Shakers, choisis par Rockin' Ronnie, notre invité aujourd'hui, dans Crème de la Crème, qui se termine avec un morceau de choix pour Delphine, qui a été interrogée par Ronan. Et on se retrouvera, nous, la semaine prochaine pour une dernière semaine avant quelques deux semaines de vacances. On se retrouve surtout dimanche, ce dimanche 21 avril, au Jardin Moderne pour un plateau en direct du Spring Rec numéro 8 de 15h à 18h avec interview des groupes et artistes, des labels et puis aussi diffusion de live qui seront donnés au Jardin Moderne. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!
Morceau de
bravoure.
Cracher le morceau. Recoller les morceaux.
Les morceaux, le morceau.
Manger le morceau.
Morceau.
Le morceau.
Emporter le morceau.
Morceau.
Choisi.
Morceau
choisi.
Morceau de choix.
De choix.
De choix.
Morceau de choix.
Mon morceau de choix, c'est Epic, sur l'album The Real Thing de Face No More, sorti en 1990. J'ai choisi cette chanson parce que c'est ma chanson préférée de cet album. De Face No More, il est unique, et dans cette chanson en particulier, je trouve qu'il y a un mélange des genres, un peu hip-hop, metal beaucoup pour les guitares, et puis un peu funk. Ça se rapporte à un moment de ma jeunesse. Ça me rappelle les copains, l'été, la plage, l'insouciance de la jeunesse. On écoutait ça sur un ghetto blaster, on se baladait en ville, on traînait sur la plage le soir, et on passait ça en boucle aussi l'après-midi. Bon, des fois on embêtait un peu les gens, ça se passait plutôt bien. Les paroles ont été composées par Mike Patton et c'est le premier album sur lequel il intervient dans ce groupe. Et c'est toujours assez énigmatique ce qu'il écrit et ça me plaît aussi. Dans cette chanson, c'est pas tout à fait de quoi il parle. Le refrain c'est « What is it? It's it ?» Mais de quoi parle-t-il en fait ? On peut tout y mettre en fait. Mmh.